Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans l'épisode précédent que nous avons lu dans le livre Arsène Lupin, l'aiguille creuse de Maurice Leblanc, Bottelet a enfin trouvé comment résoudre l'énigme du message codé. Il vient de découvrir dans la région d'Etretat ce que Lupin avait découvert bien avant lui, l'aiguille creuse, réellement la légende de l'aiguille creuse. Pour lui, tout d'un coup, c'est devenu une réalité. Bottelet a en face de lui, en pleine mer, un roc énorme, 80 mètres de haut, un obélisque colossal, les pieds dans l'eau, l'aiguille sommitale dans le ciel. Et de plus, au soleil couchant, presque en haut de l'aiguille d'Etretat, alors que des mouettes voltigent autour du sommet, il peut voir qu'un peu de fumée suinte d'une crevasse ainsi que d'une cheminée invisible. L'aiguille, bien que creuse, devait être habitée. C'est là que devait être caché le fameux missel de Marie-Antoinette, cachant l'indispensable document qu'il devait trouver. Reprenons donc notre lecture et avec lui, allons nous renseigner sur l'aiguille creuse. Toute la matinée du lendemain, Isidore flâna dans Etretat et bavarda de droite et de gauche pour tâcher de recueillir quelques renseignements utiles. Enfin, l'après-midi, il monta sur la falaise. Déguisé en matelot, il s'était rajeuni encore et il avait l'air d'un gamin de 12 ans avec sa culotte trop courte et son maillot de pêcheur. À peine entré dans la grotte, il s'agenouilla devant les lettres. Une déception l'attendait. Il eut beau frapper dessus, les pousser, les manipuler dans tous les sens, elles ne bougèrent pas. Et il se rendit compte assez rapidement qu'elles ne pouvaient réellement pas bouger et par conséquent qu'elles ne commandaient aucun mécanisme. Pourtant, elles signifiaient quelque chose. Des informations qu'il avait prises dans le village, il résultait que personne n'avait jamais pu en expliquer la présence et que l'abbé Cochet, en son précieux livre sur Etretat, s'était lui aussi penché vainement sur ce petit rébus. Une note en bas de page à propos de Etretat. Les origines d'Etretat. En fin de compte, l'abbé Cochet semble conclure que les deux lettres sont les initiales d'un passant. Les révélations que nous apportons démontrent l'erreur d'une telle supposition. Je poursuis la lecture. Mais Isidore savait ce qu'ignorait le savant archéologue normand, c'est-à-dire la présence des deux mêmes lettres sur le document à la ligne des indications. Coïncidence fortuite ? Impossible. Alors ? Une idée lui vint brusquement. Et si rationnel, si simple, qu'il ne douta pas une seconde de sa justesse. Ce D majuscule et ce F majuscule n'étaient-ce pas les initiales de deux des mots les plus importants du document ? Mots qui représentaient, avec l'aiguille, les stations essentielles de la route à suivre. La chambre des demoiselles et le fort de Fréfossé. Le D majuscule de demoiselle, le F de Fréfossé, il y avait là un rapport trop étrange pour être le fait du hasard. En ce cas, le problème s'offrait ainsi. Le groupe DF représente la relation qui existe entre la chambre des demoiselles et le fort de Fréfossé. La lettre D qui commence la ligne représente les demoiselles, c'est-à-dire la grotte, où il faut tout d'abord se poster. Et la lettre isolée F qui se place en milieu de ligne représente Fréfossé, c'est-à-dire l'entrée probable du souterrain. Entre ces divers signes, il en reste deux. Une sorte de rectangle inégal marqué d'un trait sur la gauche, en bas, et le chiffre 19, signe qui, en toute évidence, indique à ceux qui se trouvent dans la grotte le moyen de pénétrer sous le fort. La forme de ce rectangle intriguait Isidore. Y aurait-il autour de lui, sur les murs ou tout au moins à portée de regard, une inscription, une chose quelconque, affectant une forme rectangulaire? Il chercha longtemps et il était sur le point d'abandonner cette piste quand ses yeux rencontrèrent une petite ouverture percée dans le roc et qui était comme la fenêtre de la chambre. Or, les bords de cette ouverture dessinaient précisément un rectangle, rugueux, inégal, grossier, mais tout de même un rectangle. Et aussitôt, Botrelet constata qu'en posant les deux pieds sur le D et le F gravés dans le sol, et ainsi s'expliquait la barre qui surmontait les deux lettres du document, on se trouvait exactement à la hauteur de la fenêtre. Il prit position à cet endroit et regarda. La fenêtre étant dirigée, nous l'avons dit, vers la terre ferme, on voyait d'abord le sentier qui reliait la grotte à la terre, sentier suspendu entre deux abîmes. Puis on apercevait la base même du monticule qui portait le fort. Pour essayer de voir le fort, Botrelet se pencha vers la gauche, et c'est alors qu'il comprit la signification du trait arrondi de la virgule qui marquait le document en bas à gauche. En bas, à gauche de la fenêtre, un morceau de silex formait saillie, et l'extrémité de ce morceau se recourbait comme une griffe. On eût dit un véritable point de mire. Et si l'on appliquait l'œil à ce point de mire, le regard découpait sur la pente du monticule opposé une superficie de terrain assez restreinte et presque entièrement occupée par un vieux mur de briques. Vestige de l'ancien fort de Fréfossé ou de l'ancien oppidum romain construit à cet endroit. Botrelet courut vers ce pan de mur, long peut-être de 10 mètres et dont la surface était tapissée d'herbes et de plantes. Il ne releva aucun indice. Et cependant, ce chiffre 19. Il revint à la grotte, sortit de sa poche un peloton de ficelles et un mètre en étoffe dont il s'était muni. Il noua la ficelle à l'angle du silex, attacha un caillou au 19e mètre et le lança du côté de la terre. Le caillou atteignit à peine l'extrémité du sentier. « Triple idiot !» pensa Botrelet. « Est-ce que l'on comptait par mètre à cette époque-là » 19 signifie 19 toises ou ne signifie rien. Le calcul effectué, il compta 37 mètres sur la ficelle, fit un nœud et à tâtons chercha sur le pan de mur le point exact et forcément unique où le nœud formé à 37 mètres de la fenêtre des demoiselles toucherait le mur de Fréfossé. Après quelques instants, le point de contact s'établit. De sa main restée libre, il écarta des feuilles de molène poussées entre les interstices. Un cri lui échappa. Le nœud qu'il tenait appliqué au bout de son index était posé sur le centre d'une petite croix sculptée en relief sur une brique. Or, le signe qui suivait le chiffre 19 sur le document était une croix. Il lui fallut toute sa volonté pour dominer l'émotion qui l'envahit. Hâtivement, de ses doigts crispés, il saisit la croix et tout en appuyant, la tourna comme il eût tourné les rayons d'une roue. La brique oscilla. Il redoubla son effort. Elle ne bougea plus. Alors, sans tourner, il appuya davantage. Il la sentit aussitôt qui cédait. Et, tout à coup, il y eut comme un déclenchement, un bruit de serrure qui s'ouvre. Et, à droite de la brique, sur une largeur d'un mètre, le pan de mur pivota et découvrit l'orifice d'un souterrain. Comme un fou, Botrelé empoigna la porte de fer dans laquelle les briques étaient scellées, la ramena violemment et la ferma. L'étonnement, la joie, la peur d'être surpris convulsaient sa figure jusqu'à la rendre méconnaissable. Il eut la vision effarante de tout ce qui s'était passé là, devant cette porte, depuis 20 siècles, de tous les personnages initiés aux grands secrets qui avaient pénétré par cette issue. Celtes, Gaulois, Romains, Normands, Anglais, Français, Barons, Ducs, Rois, et après eux tous, Arsène Lupin. Et après Lupin, lui, Botrelé. Il sentit que son cerveau lui échappait. Ses paupières battirent, il tomba évanoui et roula jusqu'au bas de la rampe, au bord même du précipice. Sa tâche était finie, du moins la tâche qu'il pouvait accomplir seul, avec les seules ressources dont il disposait. Le soir, il écrivit au chef de la sûreté une longue lettre où il rapportait fidèlement les résultats de son enquête et livrait le secret de l'aiguille creuse. Il demandait du secours pour achever l'œuvre et donner son adresse. En attendant la réponse, il passa 2 nuits consécutives dans la chambre des demoiselles. Il les passa transis de peur, les nerfs secoués d'une épouvante qu'exaspéraient les bruits nocturnes. Il croyait à tout instant voir des ombres qui s'avançaient vers lui. On savait sa présence dans la grotte. On venait, on l'égorgeait. Son regard pourtant éperdument fixe, soutenu par toute sa volonté, s'accrochait au pan du mur. La première nuit, rien ne bougea. Mais la seconde, à la clarté des étoiles et d'un mince croissant de lune, il vit la porte s'ouvrir et des silhouettes qui émergeaient des ténèbres. Il en compta 2, 3, 4, 5. Il lui sembla que ces 5 hommes portaient des fardeaux assez volumineux. Ils coupèrent droit par les champs jusqu'à la route du Havre, et il discerna le bruit d'une automobile qui s'éloignait. Il revint sur ses pas, il côtoya une grande ferme. Mais au détour du chemin qu'il abordait, il n'eut que le temps d'escalader un talus et de se dissimuler derrière des arbres. Des hommes encore passèrent, 4, 5, et tous chargés de paquets. Et 2 minutes après, une autre automobile gronda. Cette fois, il n'eut pas la force de retourner à son poste et il rentra se coucher. À son réveil, le garçon d'hôtel lui apporta une lettre. Il la décacheta. C'était la carte de Ganimard. « Enfin !» s'écria Botrelé, qui sentait vraiment, après une campagne aussi dure, le besoin d'un secours. Il se précipita, les mains tendues. Ganimard les prit, le contempla un moment et lui dit « Vous êtes un rude type, mon garçon !»« Bah, fit-il, le hasard m'a servi !»« Il n'y a pas de hasard avec lui !» affirma l'inspecteur, qui parlait toujours de Lupin, d'un air solennel et sans prononcer son nom. Il s'assit. « Alors, nous le tenons ?»« Comme on l'a déjà tenu plus de 20 fois !» dit Botrelé en riant. « Oui, mais aujourd'hui ?»« Aujourd'hui, en effet, le cas diffère. Nous connaissons sa retraite, son château fort, ce qui fait somme toute que Lupin est Lupin. Il peut s'échapper. L'aiguille d'Etretat ne le peut pas. »« Pourquoi supposez-vous qu'il s'échappera ?» demanda Ganimard inquiet. « Pourquoi supposez-vous qu'il ait besoin de s'échapper ?» répondit Botrelé. « Rien ne prouvera ne prouve qu'il soit dans l'aiguille actuellement. Cette nuit, 11 de ses complices en sont sortis. Il était peut-être l'un de ces 11. » Ganimard réfléchit. Vous avez raison. L'essentiel, c'est l'aiguille creuse. Pour le reste, espérons que la chance nous favorisera. Et maintenant, Causons. » Il prit de nouveau sa voix grave, son air d'importance convaincu, et prononça. « Mon cher Botrelet, j'ai ordre de vous recommander, à propos de cette affaire, la discrétion la plus absolue. »« Ordre de qui ?» fit Botrelet plaisantant. « Du préfet de police ?»« Plus haut !»« Le président du conseil ?»« Plus haut !»« Bigre !» Ganimard baissa la voix. « Botrelet, j'arrive de l'Élysée. On considère cette affaire comme un secret d'État d'une extrême gravité. Il y a des raisons sérieuses pour que l'on tienne ignorer cette citadelle invisible, des raisons stratégiques surtout. Cela peut devenir un centre de ravitaillement, un magasin de poudre nouvelle, de projectiles récemment inventés, que sais-je, l'arsenal inconnu de la France. Mais comment espère-t-on garder un tel secret ? Jadis, un seul homme le détenait, le roi. Aujourd'hui, nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, sans compter la bande à Lupin. Hé, quand on ne gagnerait que 10 ans, que 5 ans de silence, ces 5 années peuvent être le salut. Mais pour s'emparer de cette citadelle, de ce futur arsenal, il faut bien l'attaquer, il faut bien en déloger Lupin. Et tout cela ne se fait pas sans bruit. Évidemment, on devinera quelque chose, mais on ne saura pas. Et puis quoi ? Essayons. Soit, quel est votre plan ? En 2 mots, voilà. Tout d'abord, vous n'êtes pas Isidore Botrelet. Et il n'est pas question non plus d'Arsène Lupin. Vous êtes et vous restez un gamin d'Etretat, lequel, en flânant, a surpris des individus qui sortaient d'un souterrain. Vous supposez, n'est-ce pas, l'existence d'un escalier qui perce la falaise du haut en bas. Oui, il y a plusieurs de ces escaliers le long de la côte. Tenez, tout près, on m'a signalé en face de Bénouville l'escalier du curé, connu de tous les baigneurs. Et je ne parle pas des 3 ou 4 tunnels destinés aux pêcheurs. Donc, la moitié de mes hommes et moi, nous marchons guidés par vous. J'entre seul ou accompagné, ceci est à voir. Toujours est-il que l'attaque a lieu par là. Si Lupin n'est pas dans l'aiguille, nous établissons une souricière où un jour ou l'autre, il se fera pincer. S'il est là ? S'il est là, monsieur Ganimard, il s'enfuira de l'aiguille par la face postérieure, celle qui regarde la mer. En ce cas, il sera immédiatement arrêté par l'autre moitié de mes hommes. Oui, mais si, comme je le suppose, vous avez choisi le moment où la mer s'est retirée, laissant à découvert la base de l'aiguille, la chasse sera publique, puisqu'elle aura lieu devant tous les pêcheurs et pêcheuses de moules, de crevettes et de coquillages qui pullulent sur les rochers avoisinants. C'est pourquoi je choisirai justement l'heure où la mer sera pleine. En ce cas, il s'enfuira sur une barque. Et comme j'aurai là, moi, une 12aine de barques de pêche dont chacune sera commandée par un de mes hommes, il sera cueilli. S'il ne passe pas entre votre 12aine de barques ainsi qu'un poisson à travers les mailles, soit, mais alors, je le coule à fond. Fichtre, vous aurez donc des canons ? Mon Dieu, oui ! Il y a en ce moment un torpilleur au Havre. Sur un coup de téléphone de moi, il se trouvera à l'heure dite aux environs de l'aiguille. Ce que Lupin sera fier ! Un torpilleur ? Allons, je vois, monsieur Ganimard, que vous avez tout prévu. Il n'y a plus qu'à marcher. Quand donnons-nous l'assaut ? Demain. La nuit ? En plein jour, à marée montante, sur le coup de 10 heures. Parfait. Sous ses apparences de gaieté, Botrelet cachait une véritable angoisse. jusqu'au lendemain, il ne dormit pas, agitant tour à tour les plans les plus impraticables. Ganimard l'avait quitté pour se rendre à une dizaine de kilomètres d'Etretat à Yport, où, par prudence, il avait donné rendez-vous à ses hommes et où il fréta 12 barques de pêche en vue, soi-disant, de sondages le long de la côte. À 9h15, escorté de 12 gaillards solides, il rencontrait Isidore au bas du chemin qui monte sur la falaise. À 10h précises, ils arrivaient devant le pan de mur. Et c'était l'instant décisif. « Qu'est-ce que tu as donc, Botrelé ?»« Tu es vert, rigana Ganimard, tutoyant le jeune homme en manière de moquerie. »« Et toi, monsieur Ganimard ?» riposta Botrelé. « On croirait que ta dernière heure est venue. » Ils durent s'asseoir et Ganimard avala quelques gorgées de rhum. « Ce n'est pas le trac, dit-il, mais sapristi, quelle émotion ! Chaque fois que je dois le pincer, ça me prend aux entrailles. Un peu de rhum ? Non. Et si vous restez en route, c'est que je serai mort. Bigre ! Enfin, nous verrons. Et maintenant, ouvrez. Pas de danger d'être vu, hein ? Non. L'aiguille est plus basse que la falaise et en outre, nous sommes dans un repli de terrain. Botrelé s'approcha du mur et pesa sur la brique. Le déclenchement se produisit et l'entrée du souterrain apparut. À la lueur des lampes qu'ils allumèrent, ils virent qu'il était percé en forme de voûte et que cette voûte, ainsi d'ailleurs que le sol lui-même, était entièrement recouverte de briques. Ils marchèrent pendant quelques secondes et tout de suite, un escalier se présenta. Botrelé compta 45 marches, marches en briques, mais que l'action lente des pas avait affaissées par le milieu. « Sacré nom !» jura Ganimard qui tenait la tête et qui s'arrêta subitement comme s'il avait heurté quelque chose. « Qu'y a-t-il ? » ?»« Une porte. » « Bigre !» murmura Botrelé en la regardant. « Pas commode à démolir. Un bloc de fer tout simplement. »« Nous sommes fichus, » dit Ganimard. « Il n'y a même pas de serrure. »« Justement, c'est ce qui me donne de l'espoir. »« Et pourquoi ? » ?»« Une porte est faite pour s'ouvrir. »« Et si celle-là n'a pas de serrure, c'est qu'il y a un secret pour l'ouvrir. » Et comme nous ne connaissons pas ce secret, je vais le connaître. Par quel moyen ? Par le moyen du document. La quatrième ligne n'a pas d'autre raison que de répondre ou de résoudre les difficultés au moment où elle s'offre. Et la solution est relativement facile puisqu'elle est inscrite non pour dérouter, mais pour aider ceux qui cherchent. Relativement facile, je ne suis pas de votre avis, s'écria Ganimard qui avait déplié le document. Le nombre 44 est un triangle marqué d'un point à gauche, c'est plutôt obscur. Mais non, examinez la porte. Vous verrez qu'elle est renforcée aux quatre coins de plaques de fer en forme de triangle et que ces plaques sont maintenues par de gros clous. Prenez la plaque de gauche tout en bas et faites jouer le clou qui est à l'angle. Il y a 9 chances contre 1 pour que nous tombions juste. Vous êtes tombé sur la 10e, dit Ganimard après avoir essayé. Alors, c'est que le chiffre 44 ? À voix basse, tout en réfléchissant, Botrelé continua. « Voyons, Ganimard et moi, nous sommes là, tous les deux, à la dernière marche de l'escalier. Il y en a 45. Pourquoi 45 tandis que le chiffre du document est 44 ? Coïncidence ? Non. Dans toute cette affaire, il n'y a jamais eu de coïncidence, du moins involontaire. Ganimard, ayez la bonté de remonter d'une marche. C'est cela. Ne quittez pas cette 44e marche. Et maintenant, je fais jouer le clou de fer et la bobinette chéra, sans quoi j'y perds mon latin. La lourde porte, en effet, tourna sur ses gonds. Une caverne assez spacieuse s'offrit à leur regard. Nous devons être exactement sous le fort de Fréfossé, dit Botrelet. Maintenant, les couches de terre sont traversées. C'est fini de la brique. Nous sommes en pleine masse calcaire. La salle était confusément éclairée par un jet de lumière qui provenait de l'autre extrémité. En s'approchant, ils virent que c'était une fissure de la falaise pratiquée dans un ressaut de la paroi et qui formait comme une sorte d'observatoire. En face d'eux, à 50 mètres, surgissait des flots le bloc impressionnant de l'aiguille. À droite, tout près, c'était l'arc boutant de la porte d'aval. Et à gauche, très loin, fermant la courbe harmonieuse d'une vaste crique, une autre arche, plus imposante encore, se découpait dans la falaise. La manne-porte, mania porta, si grande qu'un navire y aurait trouvé passage, ses mâts dressés et toute voile dehors. Au fond, partout, la mer. « Je ne vois pas notre flottille, » dit Botrelet. « Impossible, » fit Ganimard. « La porte d'aval nous cache toute la côte d'Étretat et dix portes. Mais tenez, là-bas, au large, cette ligne noire au ras de l'eau. Eh bien, c'est notre flotte de guerre, le torpilleur numéro 25. Avec ça, Lupin peut s'évader s'il veut connaître les paysages sous-marins. » Une rampe marquait l'orifice de l'escalier près de la fissure. Ils s'y engagèrent. De temps à autre, une petite fenêtre trouait la paroi et chaque fois, ils apercevaient l'aiguille dont la masse leur semblait de plus en plus colossale. Un peu avant d'arriver au niveau de l'eau, les fenêtres cessèrent et ce fut l'obscurité. Isidore comptait les marches à haute voix. À la 358e, ils débouchèrent dans un couloir plus large que barrait encore une porte en fer renforcée de plaques et de clous. « Nous connaissons ça, » dit Botrelet. « Le document nous donne le nombre 357 et un triangle pointé à droite. Nous n'avons qu'à recommencer l'opération. » La seconde porte obéit comme la première. Un long, très long tunnel se présenta, éclairé de place en place par la lueur vive des lanternes suspendues à la voûte. Les murs suintaient et des gouttes d'eau tombaient sur le sol, de sorte que, d'un bout à l'autre, on avait disposé, pour faciliter la marche, un véritable trottoir en planche. « Nous passons sous la mer, » dit Botrelet. « Vous venez, Ganimard ?» L'inspecteur s'aventura dans le tunnel, suivit la passerelle en bois et s'arrêta devant une lanterne qu'il décrocha. Les ustensiles datent peut-être du Moyen-Âge, mais le mode d'éclairage est moderne. Ces messieurs s'éclairent avec des manchons à incandescence. Il continua son chemin. Le tunnel aboutissait à une autre grotte de proportions plus spacieuses, où l'on apercevait en face les premières marches d'un escalier qui montait. Maintenant, c'est l'ascension de l'aiguille qui commence, dit Ganimard. Ça devient plus grave. Mais un de ses hommes l'appela. Patron, un autre escalier, là, sur la gauche. Et tout de suite après, ils en découvrirent un troisième sur la droite. Fichtre, murmura l'inspecteur, la situation se complique. Si nous passons par ici, ils fileront par là, eux. Séparons-nous, proposa Botrelet. Non, ce serait nous affaiblir. Il est préférable que l'un de nous parte en éclaireur. Moi, si vous voulez. Vous, Beautrelet, soit. Je resterai avec mes hommes, comme ça, rien à craindre. Il peut y avoir d'autres chemins que celui que nous avons suivi dans la falaise, et plusieurs chemins aussi à travers l'aiguille. Mais, pour sûr, entre la falaise et l'aiguille, il n'y a pas d'autre communication que le tunnel. Donc, il faut qu'on passe par cette grotte. Donc, je m'y installe jusqu'à votre retour. Allez, Beautrelet, et de la prudence, à la moindre alerte, rappliquez. Vivement, Isidore disparut par l'escalier du milieu. À la 30e marche, une porte. Une véritable porte en bois l'arrêta. Il saisit le bouton de la serrure et tourna. Elle n'était pas fermée. Il entra dans une salle qui lui sembla très basse, tellement elle était immense. Éclairée par de fortes lampes, soutenues par des piliers trapus, entre lesquels s'ouvraient de profondes perspectives, elle devait presque avoir les mêmes dimensions que l'aiguille. Des caisses l'encombraient. Une multitude d'objets, des meubles, des sièges, des bahuts, des crédences, des coffrets, tout un fouillis, comme on en voit au sous-sol des marchands d'antiquités. À sa droite et à sa gauche, Beautrelet aperçut l'orifice de deux escaliers, les mêmes sans doute que ceux qui partaient de la grotte inférieure. Il eut donc pu redescendre et avertir Ganimard. Mais en face de lui, un nouvel escalier montait. Et il eut la curiosité de poursuivre seul ses investigations. 30 marches encore. Une porte, puis une salle un peu moins vaste, sembla-t-il, à Beautrelet. Et toujours en face, un escalier qui montait. 30 marches encore. Une porte, une salle plus petite. Beautrelet comprit le plan des travaux exécutés à l'intérieur de l'aiguille. C'était une série de salles superposées, les unes au-dessus des autres et par conséquent de plus en plus restreintes. Toutes servaient de magasins. À la 4e, il n'y avait plus de lampes. Un peu de jour filtrait par des fissures et Beautrelet aperçut la mer à une dizaine de mètres au-dessous de lui. À ce moment, il se sentit si éloigné de Ganimard qu'une certaine angoisse commença à l'envahir et il lui fallut dominer ses nerfs pour ne pas se sauver à toutes jambes. Aucun danger ne le menaçait cependant et même autour de lui, le silence était tel qu'il se demandait si l'aiguille entière n'avait pas été abandonnée par Lupin et ses complices. Au prochain étage, se dit-il, je m'arrêterai. 30 marches toujours, puis une porte, celle-ci plus légère, d'aspect plus moderne. Il la poussa doucement, tout prêt à la fuite. Personne. Mais la salle différait des autres comme destination. Au mur, des tapisseries. Sur le sol, des tapis. Deux dressoirs magnifiques se faisaient vis-à-vis, chargés d'orfèvrerie. Les petites fenêtres pratiquées dans les fentes étroites et profondes étaient garnies de vitres. Au milieu de la pièce, une table richement servie avec une nappe en dentelle, des compotiers de fruits et de gâteaux, du champagne en carafe et des fleurs, des amoncellements de fleurs. Autour de la table, trois couverts. Beautrelet s'approcha. Sur les serviettes, il y avait des cartes avec le nom des convives. Il lut d'abord Arsène Lupin. En face, Madame Arsène Lupin. Il prit la troisième carte et tressauta d'étonnement. Celle-là portait son nom. Isidore Beautrelet. En cette fin d'épisode, Beautrelet et Ganimard, le représentant de la loi qui l'a contacté et qui est venu avec tout un groupe d'hommes qui aiment bien ce genre de recherche, ils vont tenter de s'introduire dans l'aiguille creuse. Étage par étage, des portes codées dont ils découvrent les énigmes. Ça leur permet de gravir les étages les uns après les autres jusqu'à un certain étage où c'est trois escaliers, non plus un, lequel prendre. Décision est prise. Ganimard et ses hommes restent là en attente, tandis que Beautrelet, prenant l'escalier du milieu, part en éclaireur. Un, deux, puis trois étages, Beautrelet continue seul les recherches, mais à la quatrième porte, dès que la porte est ouverte, une constatation. Il n'y a plus de lumière artificielle, seul un peu de jour filtre à travers les fissures de la roche. Une certaine inquiétude l'envahit. Il va monter un dernier étage, puis retourner vers Ganimard et ses hommes. Mais ce dernier étage lui réserve une belle surprise. Beautrelet monte les 30 marches de l'escalier, ouvre la porte, plus légère et plus moderne, et la salle est très différente de celle qui était avant. Au sol des tapis, des tapisseries sur les murs, des fenêtres équipées de vitres, et au milieu de la pièce, une table dressée pour trois convives. Tout est calme. Beautrelet curieux s'avance sur les trois serviettes, des cartes portant des noms, Arsène Lupin, Madame Arsène Lupin et, troisième carte, Isidore Beautrelet. Qu'est-ce que cela veut dire? Amis auditeurs, nous le découvrirons dans le prochain épisode de notre lecture. N'oubliez pas. Émission Je lis pour vous sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB Plus. En direct, mardi et mercredi 21h30, puis rediffusion lundi et mardi 6h, ou encore notre podcast sur le site de la radio www.radioallianceplus.fr. À bientôt, chers auditeurs!